Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le deuxième dimanche de l'année B. Le lendemain, de nouveau, Jean se tient avec deux de ses disciples. Il jette les yeux sur Jésus en train de marcher et dit
« Voyez ici l'agneau de Dieu ».
Les deux disciples écoutent ses paroles et ils suivent Jésus. Jésus se retourne et regardant ceux-ci qui le suivent, il leur dit
« Que cherchez-vous ?»
Ils lui disent
« Rabbi », ce qui traduit se dit « Maître, où demeures-tu ?»
Il leur dit
« Venez et vous verrez ».
Ils vont donc et voient où il demeure. Il demeure près de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, est un des deux qui, après avoir écouté Jean, ont suivi Jésus. Celui-là va trouver d'abord son propre frère Simon et lui dit
« Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit « Christ ».
Il le conduit vers Jésus. Jetant les yeux sur lui, Jésus dit «
Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Képhas, ce qui se traduit Pierre. » Bonjour André, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Bonjour Georges.
Eh bien, les grandes fêtes de Noël, de l'Épiphanie et du Baptême viennent de se terminer et elles nous ont fait célébrer en Jésus la manifestation du Messie de Dieu. Alors nous sommes maintenant au deuxième dimanche ordinaire de l'année liturgique. Et le texte d'aujourd'hui, dans le récit de Jean, nous décrit la vocation des premiers disciples de Jésus. Et dans ce récit, nous pouvons voir le portrait de la vocation de tout chrétien et de toute chrétienne.
Ce portrait nous paraît-il toujours actuel? Que nous enseigne-t-il de notre vocation personnelle?
Eh bien voilà des questions que nous pourrons nous poser. Mais d'abord, citons notre texte dans l'écrit de Jean, le prologue a décrit la mission de Jésus en la situant dans le cadre de l'histoire de l'humanité. Pour le croyant, cette histoire n'est pas d'abord celle de l'évolution de l'espèce humaine, mais elle est surtout le grand drame où se jouent et se tissent les liens entre Dieu et les êtres humains. Ces liens d'alliance sont malheureusement souvent marqués de révolte, de doute ou de rejet de la part de ceux que Dieu veut rejoindre et aimer. Et voici que commence avec Jésus un nouvel épisode de ce grand drame.
La parole divine était la vraie lumière qui illumine tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde fut par elle, et le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue, et les siens ne l'ont pas accueillie. Et la parole s'est faite vie d'homme, et elle a habité parmi nous.
Et Jean le Baptiste est le premier témoin de ce nouvel épisode.
Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière. Celui qui m'a envoyé baptisé dans l'eau, c'est lui qui m'a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint de Dieu.
Son témoignage va orienter plusieurs de ses propres disciples vers Jésus. Et le texte d'aujourd'hui relate donc la rencontre entre Jésus et trois d'entre eux, André et son compagnon, puis Simon. La suite du récit racontera la vocation de Philippe et de Nathanaël. Et enfin, le chapitre 2e relatera la première manifestation de Jésus comme Messie lors des noces de Cana. Alors notre texte concerne donc la rencontre de Jésus avec André et son compagnon, puis avec Simon. Alors comment se déroule cette rencontre entre Jésus et ceux qui vont devenir ses disciples? Eh bien, le schéma est sensiblement le même pour les deux rencontres. Il y a d'abord un témoin qui conduit à Jésus, et la rencontre avec Jésus, elle, va conduire à un engagement à sa suite.
Le premier épisode de la rencontre, un témoin.
Pour André et son compagnon, ce témoin, ce sera Jean le Baptiste. Pour Simon, ce sera André son frère.
Que signifie le témoignage de Jean ? Voici l'agneau de Dieu.
La Bible et la tradition rabbinique connaissent plusieurs figures de l'agneau. Et il n'est pas facile de savoir à laquelle de ces figures Jean le Baptiste fait référence. Quelle que soit d'ailleurs l'origine de l'expression, il nous faudra sans aucun doute identifier cet agneau avec le Messie, puisque, après avoir rencontré Jésus, André dira « Nous avons trouvé le Messie ». On peut d'ailleurs aussi penser que l'agneau de Dieu de Jean fait référence à plusieurs figures en même temps. La première figure de l'agneau fait référence à Isaïe où les chants du serviteur souffrant parlent d'un agneau conduit à la boucherie qui n'ouvre pas la bouche comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. On sait que ces textes ont beaucoup inspiré les premiers chrétiens lorsqu'ils ont voulu décrire la mission de Jésus. Peu après Pâques, le diacre Philippe va présenter Jésus en expliquant précisément ce passage d'Isaïe au ministre de la reine d'Éthiopie.
S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Philippe, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Le rapprochement entre ce serviteur et l'agneau serait d'ailleurs d'autant plus fort que dans la langue de Jésus, en araméen, le même mot « talia » signifie aussi bien « agneau » que « serviteur ». De plus, en Isaïe, ce serviteur, qui est un homme juste, porte le péché des foules.
Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Il était transpercé à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Homme juste, mon serviteur dispensera la justice au profit des foules, du fait que lui-même supporte leur perversité. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a porté les fautes des foules. Il s'est interposé pour les pécheurs.
Cependant, cette vision d'un Messie, humble et silencieux serviteur, expiant par ses souffrances et sa mort les fautes de la multitude, est quelque peu différente de la vision de Jean le Baptiste, qui, lui, parle d'un Messie très puissant. « Celui qui est plus fort que moi vient après moi », dit-il. La figure de l'agneau dans l'Apocalypse est plus proche de la vision de Jean. On se souvient que le Baptiste parle de la colère de Dieu qui va se manifester lors de la venue du Messie. Or, l'agneau de l'Apocalypse partage la colère de Dieu devant tout le mal accompli sur la terre.
Tous disaient aux montagnes, « Cachez-nous loin de la face de Dieu et loin de la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de leur colère. »
Et cet agneau va triompher des puissances du mal qui sont symbolisées par sept rois.
Ces rois n'ont qu'un seul dessein, mettre au service de la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils combattront l'agneau. Mais l'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Et avec lui, les appelés, les élus et les fidèles vaincront aussi.
On trouve des textes parallèles dans le livre juif d'Hénoc, un livre qui a été rédigé entre l'année 150 avant Jésus et qui se poursuivra jusqu'au IIIe siècle après Jésus. L'histoire du peuple d'Israël y est comparée à un combat qu'un agneau mène afin de protéger les brebis du troupeau contre les loups. Cette image de l'agneau qui met en déroute les loups traduit bien la pensée biblique qui veut que Dieu triomphe du mal à travers la faiblesse même de ses fidèles. Plus tard, c'est ainsi que l'apôtre Paul pourra écrire « Le Seigneur Jésus m'a dit
« Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi je mettrai ma fierté plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. »
Mais posons-nous la question, cette image de la faiblesse est-elle aussi conforme aux perspectives du Baptiste? Alors il est une troisième figure de l'agneau, qui est celle de l'agneau pascal. Lors de leur sortie d'Égypte, les Hébreux s'étaient protégés du fléau qui allait détruire les premiers-nés des Égyptiens en aspergeant les montants et le linteau de leurs portes par le sang d'un agneau. Le Messie, tel que le Baptiste le perçoit, va accomplir la même mission que cet agneau. En effet, l'agneau avait permis que les Hébreux sortent du pays d'Égypte où ils étaient tenus en servitude pour aller vers la terre promise de la liberté. Eh bien, l'agneau, qui est le Messie, Jésus, va délivrer son peuple de la servitude des Romains. Enfin, ajoutons une quatrième figure de l'agneau qui se trouve dans la tradition des rabbis de l'époque de Jésus. Le pharaon d'Égypte avait eu la vision d'un agneau sur le plateau d'une balance, un agneau qui serait tellement lourd qu'il causerait la perte des Égyptiens. Pour cette tradition, cet agneau représentait Moïse, Moïse qui va libérer le peuple de Dieu. Alors, Jean-Baptiste désignerait ainsi Jésus comme le nouveau Moïse. Et voilà trois figures déjà. Toutes ces figures de l'agneau vont dans le sens de la libération du peuple, et c'est effectivement la tâche du Messie que l'on attend. Cette libération s'attaquera au mal de la servitude politique, mais aussi au péché du peuple qui en est la cause. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, a dit Jean le Baptiste.
Qu'est-ce que signifie l'expression « le péché du monde » ?
Dans la Bible, le péché est essentiellement le refus d'écouter Dieu, Dieu qui nous parle dans la Torah, la règle de vie. Le Messie viendra donc comme l'homme consacré par Dieu qui est non seulement parfaitement à l'écoute de la parole divine, mais qui a la mission d'interpréter la Torah, d'en manifester l'actualité. Il conduira ainsi le peuple de Dieu à vivre conformément à cet enseignement de la Torah, un enseignement qui est sagesse de vie et lumière pour nous faire sortir des ténèbres du mal.
Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors.
En conduisant le peuple à vivre selon la vérité de la Torah, le Messie purifiera le peuple de Dieu qui deviendra saint et fidèle à Dieu. Et cette espérance s'appuyait sur des textes de la Bible comme celui d'Isaïe.
On ne connaîtra ni mal ni perversité sur ma montagne sainte, car la connaissance de Dieu remplira la terre, comme les eaux recouvrent la mer.
Un texte de la communauté de Qumran illustre aussi cette attente.
Alors Dieu, par sa vérité, nettoiera les œuvres d'un chacun pour supprimer tout esprit de perversité et pour le purifier par l'esprit de sainteté.
Mais cette purification concernera aussi les autres peuples qui oppriment Israël, comme on le trouve décrit dans l'Apocalypse de Baruch.
Et lorsque le Messie aura humilié le monde entier et qui siégera en paix pour toujours sur le trône de sa royauté, alors jugement, accusation, lutte, vengeance, crime, passion, jalousie, haine et tout ce qui leur ressemble iront à leur condamnation après avoir été extirpés.
Voilà donc l'homme de Dieu que cherchent Jean le Baptiste et ses disciples et qu'ils vont rencontrer en Jésus.
Jésus se retourne et il leur dit, « Que cherchez-vous ? »
Eh bien, voilà la première parole que Jésus prononce dans l'évangile qui est rédigé par Jean. Et la réponse des disciples est une autre question. « Rabbi, où demeures-tu ? » Le rabbi, qu'est-ce que c'est ? C'est un maître qui a la tâche d'apprendre la Torah à ses disciples. Les rabbis enseignent souvent en marchant et leurs élèves les suivent. C'est pourquoi d'ailleurs l'expression « suivre un maître » signifie « devenir disciple ». Mais c'est aussi dans sa maison que le rabbi a son école. L'apprenant, assis au pied de son maître, reçoit les paroles de l'enseigneur. Et comme il n'y a pas de cahier et de crayon pour prendre des notes, alors concrètement, il faut répéter les paroles du maître afin de les retenir par cœur. C'est un enseignement de bouche à oreille. Mais on pourrait dire aussi de bouche à bouche, car le disciple répète ce que dit le maître. Il lui fait écho. C'est au sens fort du mot une catéchèse, puisque dans le mot catéchèse, on trouve le mot écho. Pour faire vraiment siennes les paroles du maître, pour les comprendre, il faut prendre les paroles de la bouche du maître et s'en nourrir, afin de les faire descendre dans la mémoire du cœur, le cœur au sens biblique qui désigne le lieu intime de la personne, le lieu des décisions, de la volonté. La demeure de l'enseigneur devient celle de l'appreneur, du disciple. C'est que cet enseignement n'est pas seulement une transmission de connaissances, mais une transmission d'esprit, de sagesse, de vie, qui va se faire par une vie commune. La culture africaine traditionnelle était proche de cette forme d'enseignement, comme le traduit fort bien ce texte de l'Africain Yil Boudo.
Je veux aller à l'école de l'enseigneur, où l'enseigneur enseigne à la manière de nos pères, où l'enseigneur est plus grand que nos pères, où l'enseigneur donne le manger et le boire, ainsi que le savoir à la manière de nos pères. Car l'enseigneur parole devient pain et vin, et sagesse, afin de donner la vie perdurable.
C'est-à-dire la vie d'éternité. Si le disciple assiste son maître de ses biens, c'est pour devenir littéralement son compagnon, c'est-à-dire celui dont il partage le pain, et d'abord, bien sûr, le pain de la parole. Le disciple s'attache à son maître pour vivre de sa vie, pour vivre sa vie. Aussi, demeurer avec Jésus ne sera pas seulement être son disciple, mais devenir son ami, comme on le trouve dans le chapitre 15 de Jean.
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous prescris. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Venez et vous verrez.
Toute la vie d'Israël en est une d'écoute de Dieu à travers la Torah. Tout juif répète chaque matin dans sa prière « Écoute Israël ». Tout au long de l'histoire, Dieu parle par sa Torah et par ses prophètes. Pour découvrir Jésus, Jean le Baptiste a été à l'écoute de Dieu. Il déclare « Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit ». Mais ce qui va être différent avec ce Rabbi Jésus, c'est que le voir va s'ajouter à l'écouter. Car lorsqu'il s'agit de Jésus, le rabbi appreneur accomplit parfaitement la Torah. Sa parole est totalement en conformité avec ce qu'il fait, avec ce que l'on le voit faire. Il pourra dire
« Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres, afin que vous connaissiez que le Père est en moi, comme je suis dans le Père. »
Oui, de même que le disciple de Jésus a sa demeure avec Jésus pour vivre sa vie, eh bien ainsi, l'appreneur qu'est Jésus a sa véritable demeure en Dieu qui est son Père et qui est son enseigneur. Pour lui, comme l'a révélé son baptême, les cieux se sont ouverts, ce qui veut dire qu'il est en pleine communion avec le Père des cieux. Que l'Esprit du Père demeure en lui, qu'il vit de la vie de Dieu. Jean le Baptiste nous l'a déjà dit.
« J'ai contemplé l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur lui. Et j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a révélé. »
À Nathanaël, Jésus traduira sa relation privilégiée avec le Père divin en disant « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Par son intimité unique avec le Père, le Rabbi Jésus voit Dieu. « Qui me voit, voit le Père qui m'a envoyé. » Plus tard, Jésus dira à Philippe qui lui demande de leur faire voir le Père
« Je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même.
Dans l'intention du récit, lorsque les deux disciples demandent où demeures-tu, cela ne veut donc pas dire seulement à quel endroit fais-tu école, mais bien plus, toi qui es l'agneau de Dieu, fais-nous voir quelle est ta relation, quel est ton lien avec Dieu. Et donne-nous de demeurer comme toi dans l'intimité du Père.
Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Tu es Simon, le fils de Jean. Tu seras appelé Képhas.
Voilà le troisième épisode de la rencontre, l'engagement. tu seras appelé Képhas. Képhas, en araméen, dans la langue de Jésus, veut dire roc. Comment comprendre ce surnom de Pierre, de roc, donné à Simon? Eh bien, rappelons-nous la parabole de la maison bâtie sur le roc.
Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, est comparable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé, il est allé profond et a posé les fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie.
Qui construit sa vie sur la parole de Dieu, construit sa vie sur le roc qu'est Dieu. Et il devient lui aussi roc Pierre. C'est là l'inverse du péché du monde dont le Baptiste parlait, ce péché qui est le refus d'écouter la parole de Dieu. Jésus enlève le péché du monde parce qu'il est le véritable roc, tout entier à l'écoute du Père et agissant comme lui. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Jésus peut nous dire la parole de Dieu, mais surtout, il peut témoigner comment la vivre. Il peut témoigner comment la vivre, mais bien plus encore, il peut nous aider à la vivre. Et cela, en nous communiquant l'esprit d'un fils, l'esprit d'une fille de Dieu, en nous baptisant dans l'Esprit-Saint. Pour être appelé roc, il faut, comme Jésus est par lui, recevoir de Dieu et la sagesse et l'amour. Être disciple, c'est essentiellement devenir enseignable, docile. En latin, disciple comme docile viennent tous deux de la racine dec qui signifie recevoir. Le péché, c'est de se refuser à recevoir. C'est vouloir être soi par soi-même. Celui qui pense trouver en lui-même la raison de tout, la vérité de tout, celui-là refuse de recevoir la sagesse de la vie d'un plus grand que lui. Il refusera aussi de recevoir l'amour, de se laisser aimer, pensant qu'il trouvera en lui la source de l'amour. On sait pourtant d'expérience qu'on apprend à aimer qu'en se laissant aimer. Devenu roc, Simon devra à son tour porter témoignage de la parole, rassembler, soutenir ceux qui deviendront des appreneurs de Jésus.
Tu es roc, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée d'appreneurs. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle.
Si l'enseigneur Jésus est l'agneau venant de Dieu pour nous libérer de la puissance du mal et de la mort spirituelle, c'est parce qu'il nous donne la force de vivre selon l'esprit d'amour. Il nous donne et nous pardonne sans cesse son amour qui est celui de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde veut donc dire l'agneau par lequel Dieu pardonne. Pour se réconcilier avec Dieu, il n'y a donc plus à recourir au sacrifice d'animaux. Il faut rencontrer le Dieu qui pardonne dans la personne de Jésus. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.
Aujourd'hui, nous ne pouvons voir Jésus comme ses premiers disciples, mais c'est sur leur témoignage que nous pouvons appuyer notre foi. « Parce que tu m'as vu, tu as cru, dit Jésus à Thomas, bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Mais ce témoignage des premiers disciples doit aussi rencontrer notre propre expérience de Jésus. Pour nous, comme pour André et Simon, il n'y a pas de rencontre de Jésus sans une écoute continuelle de sa parole, sans une mise en pratique de l'Évangile dans le quotidien de notre vie. Il nous faut sans cesse chercher à rendre Jésus présent au milieu de nous comme il nous l'a promis.
Comment Jésus peut-il être présent aujourd'hui?
Eh bien, cette présence se réalise dans les cœurs qui vont vivre selon l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire en tous ceux qui aiment à la manière de Dieu. Et aimer à la manière de Dieu, c'est aimer de bonté généreuse, sans exclusion, sans condition, sans calcul. Celui qui cherche à vivre et à aimer comme Dieu, celui-là fait réellement voir le Messie parmi nous. Alors le monde ne me voit plus, mais vous, vous me voyez, parce que moi je vis et que vous, vous vivrez. Pour terminer, écoutons ce texte tiré du livre d'Egmont Flegme, Jésus raconté par le Juif errant.
Quand tous les enfants d'Israël pratiqueront la Torah, ne fût-ce qu'un seul sabbat, le Messie viendra.
Mais qu'y a-t-il dans cette Torah pour qu'elle puisse faire venir le Messie?
613 commandements furent révélés à Moïse, notre maître, sur le Sinaï. Vint David qui les réduisit à 13, puis vint Isaïe qui les réduisit à 6.
Qui peut demeurer auprès d'un feu dévorant? C'est celui qui marche dans la justice et celui qui parle avec droiture.
Puis vint Michée qui les réduisit à 3.
Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, de pratiquer la justice, d'aimer la bonté.
Et quand vint Amos, il les ramena à un seul.
Ainsi parle le Seigneur Dieu, cherchez-moi et vivez.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Notre numéro de télécopieur, 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous. Nous vous donnerons l'adresse de notre site. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.